Docteur Bénédicte Delors, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez nous parler dans quelques instants de la spécificité de la naprotechnologie par rapport à la PMA. Auparavant, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs?
Alors, je suis le docteur Bénédicte Delors, je suis médecin généraliste. J'ai été formée à la naprotechnologie en 2013 et j'exerce actuellement à la clinique de l'Étoile qui est située à Puy-Ricard, tout près d'Aix-en-Provence. Certains auditeurs m'ont déjà entendu, puisque j'ai, dans une émission précédente, parlé des différentes pathologies, des pathologies les plus courantes en naprotechnologie.
Alors aujourd'hui, nous allons faire un comparatif entre la naprotechnologie et la PMA. Nous vous écoutons.
Alors, le thème du jour, comme nous l'a rappelé Sandra, et les spécificités de la naprotechnologie par rapport à la PMA. Alors, je vais vous rappeler d'abord que la naprotechnologie est une alternative à la PMA pour tous les couples qui ne souhaitent pas y recourir pour des questions éthiques, écologiques, morales ou religieuses. Mon exposé va se dérouler en trois points. On va d'abord reprendre ce que c'est que la naprotechnologie. C'est une restauration de la fertilité chez un couple. Ensuite, une deuxième spécificité de la napro, c'est le suivi en binôme instructrice-médecin. Et dans un troisième point, on verra que la napro est une médecine qui prend son temps, le facteur temps est important en naprotechnologie. Voilà, je ferai peut-être en fin de propos, si on a un petit peu de temps, un point sur le coût d'un traitement en naprotechnologie, puisque c'est une question qui peut aussi se poser. Donc, mon premier point est que la naprotechnologie est une médecine de restauration. C'est-à-dire que dans une prise en charge napro, on cherchera à comprendre les causes de l'infertilité pour proposer une correction des dysfonctionnements et permettre une conception dite naturelle. Pour nous, une conception naturelle, c'est une conception au cours d'une relation sexuelle normale. Alors, dans une prise en charge en PMA, c'est-à-dire en PMA, c'est-à-dire procréation médicale assistée, on prend en compte les dysfonctionnements pour proposer des techniques de fécondation les plus appropriées. Je vais peut-être commencer par faire un rappel qui va être fait de façon assez simplifiée des différentes techniques proposées en PMA. Voilà, parce que c'est important de bien comprendre ce dont on parle. Et peut-être que certains auditeurs ne sont pas familiers avec les termes que l'on a habituellement l'habitude d'entendre quand on parle de PMA. Le point commun à toutes ces propositions de PMA est l'intervention d'un tiers pour obtenir une fécondation, c'est-à-dire la rencontre des gamètes mâles et femelles, ovules chez la femme et spermatozoïdes chez l'homme. Alors, la plus simple des techniques utilisées en procréation médicale assistée et aussi la plus ancienne est ce qu'on appelle l'insémination artificielle ou encore insémination intra-utérine. Comment cela se passe? On stimule chez la femme l'ovaire pour obtenir un follicule de bonne taille. Quand celui-ci est mûr, on voit cela en faisant un contrôle échographique. On programme l'insémination proprement dite, qui consiste à déposer dans la cavité utérine, à l'aide d'un cathéter, les spermatozoïdes qui ont été auparavant recueillis chez le conjoint. Cet acte se fait en général au cabinet du médecin et ne nécessite pas d'hospitalisation. Les spermatozoïdes qui sont déposés dans la cavité utérine de la femme peuvent provenir soit du conjoint, on parle alors d'insémination artificielle du conjoint, ou alors peuvent provenir d'un donneur, on parle alors d'insémination artificielle avec donneur. Dans ce cadre-là, la fécondation a lieu dans la trompe de la femme et donc à l'intérieur de l'organisme de la femme. L'intervention du tiers, là, est simplement le dépôt des spermatozoïdes au niveau de la cavité utérine. Dans les deux autres techniques, la fécondation va avoir lieu dans un laboratoire. La première de ces techniques, et sûrement tout le monde connaît ce terme, c'est ce qu'on appelle la FIV, fécondation in vitro. En fait, il faudrait parler plus exactement de FIVette, c'est-à-dire fécondation in vitro et transfert d'embryon. Comment cela se passe ? On va commencer par stimuler les ovaires chez la femme. Alors, cette stimulation va être une stimulation avec des doses de médicaments qui sont assez fortes, puisqu'on cherche à obtenir plusieurs ovules au cours de cette stimulation. Donc, juste un petit rappel, en fait, un follicule mûr chez la femme mesure à peu près 20 mm, c'est-à-dire 2 cm. Et lors d'une stimulation pour une FIV, on va obtenir 3, 4 follicules dans chaque ovaire. Donc ça fait à peu près 8 cm sur chaque ovaire. Vous imaginez la taille que ça implique dans le pelvis de la femme. Après cette stimulation des ovaires, on va procéder à la ponction folliculaire pour prélever ces ovules. Cette ponction se fait par voie vaginale, sous contrôle échographique. Elle se fait en général au bloc, sous anesthésie locale ou alors sous anesthésie générale. La troisième étape va être la préparation des gamètes. On va sélectionner les meilleurs ovocytes et les spermatozoïdes vont aussi être préparés pour être optimisés. Une fois qu'on a obtenu les gamètes, on va les mettre en présence pour avoir une fécondation dans une boîte de culture. Donc on met en présence plusieurs ovules et le sperme du conjoint. Et donc la fécondation, il va y avoir plusieurs fécondations dans cette boîte de culture et elle se déroule de façon aléatoire. À l'issue de cette phase, on va obtenir plusieurs embryons ou un embryon ou pas d'embryon. On va laisser ces embryons se développer 2-3 jours pour ensuite effectuer ce qu'on appelle le transfert embryonnaire, c'est-à-dire qu'on va prendre un ou deux embryons et on va les transférer dans l'utérus de la femme, évidemment au moment où la muqueuse de l'utérus est favorable à l'implantation. Ce transfert se fait également à l'aide d'un cathéter qui va aller déposer les embryons dans l'utérus de la femme. Que fait-on des embryons qui sont surnuméraires, puisqu'on va implanter un ou deux embryons, mais il peut y en avoir plusieurs autres qui ont poussé lors de la culture. Donc ces embryons surnuméraires vont être congelés et utilisés pour une autre tentative de transfert d'embryon de façon ultérieure. Sinon, ils seront utilisés pour un don qui va aller soit vers un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, soit pour la recherche, soit les embryons dans une troisième possibilité vont être détruits quand il n'existe plus de projet parental. La dernière des techniques dont je voulais vous parler, c'est l'ICSI, car c'est aussi un terme qu'on entend souvent en procréation médicale assistée. C'est une technique un peu plus poussée qui consiste à injecter un spermatozoïde dans un ovule. Évidemment, là aussi, il y a une vraie sélection des bons ovocytes et des bons spermatozoïdes en amont de cet acte. C'est une technique un peu plus poussée qui est utilisée dans des cas très précis. Il y a aussi d'autres techniques dont on ne parlera pas ici, qui sont un peu plus spécifiques. Voilà. Si, pour cela que ça intéresse, toutes ces techniques sont très bien détaillées et documentées. sur un site qui sur des sites donc le premier s'appelle FIV.fr et le second s'appelle le site de l'agence de biomédecine à la rubrique PMA. Vous pouvez vraiment aller voir, c'est intéressant pour bien comprendre comment se passent toutes ces techniques. Voilà, le recours à l'une ou l'autre de ces techniques se fait en fonction de critères bien précis pour optimiser les chances d'obtenir une grossesse chez un couple donné. Donc le couple va alors entrer dans ce qu'on appelle un protocole. Voilà. Donc je pense que c'était important de faire ce petit point de rappel pour bien comprendre ce que fait la PMA et ce que va proposer la naprotechnologie. Une prise en charge NAPRO en naprotechnologie va se dérouler en trois phases qui se superposent plus ou moins. Dans une première phase, on cherche à identifier le ou les problèmes qui causent l'infertilité du couple. Parce que je vous rappelle que l'infertilité touche le couple. On parle de fertilité du couple. On va rechercher des causes chez la femme et chez l'homme. Donc, dans l'émission précédente sur les pathologies, on a bien expliqué le rôle et l'importance de l'observation du cycle chez la femme et de tout ce que ça pouvait apporter au médecin dans son orientation de diagnostic. Donc, je n'y reviendrai pas, mais je vous invite à aller écouter le podcast si vous n'aviez pas eu l'occasion d'écouter l'émission. La phase donc de recherche des problèmes va durer le temps de réalisation de différents examens qui vont être orientés donc notamment par le tableau de fertilité qui a été rempli par le couple avec l'aide de l'instructrice, par l'interrogatoire, par les signes cliniques. Ces examens vont être plus ou moins nombreux et ils suivent un déroulement logique. On va commencer par des examens simples et on ira vers des examens plus complexes si cela s'avère nécessaire. Je vous donne quelques exemples d'examens réalisés. Dans un premier temps, on fera une prise de sang avec un dosage des hormones de la fertilité. On pourra faire une échographie pelvienne, puis ensuite viendra le temps de ce qu'on appelle l'hystérosalpingographie, c'est un terme un peu barbare, pour un examen qui consiste à injecter du produit opaque dans la cavité utérine de la femme qui va permettre d'opacifier les trompes et de voir si ces trompes sont bien perméables pour permettre la fécondation. En allant crescendo, on pourra faire une IRM pour rechercher de l'endométriose, puis une célioscopie qui est là véritablement une petite opération qui consiste à introduire une caméra dans la cavité péritonéale de la femme pour voir s'il y a des lésions d'endométriose, des adhérences, des kystes qui peuvent expliquer le problème de fertilité. Donc tous ces examens peuvent être proposés chez la femme. Chez l'homme, on demandera souvent la réalisation d'un spermogramme. On le fait en général après avoir fait les premiers examens chez la femme, s'il n'y a pas de choses particulières. On le fait avant de demander des examens plus invasifs chez la femme. Il peut être aussi utile chez l'homme de faire un bilan hormonal. On peut faire aussi une échographie Doppler des organes génitaux pour voir un petit peu s'il n'y a pas de souci de ce côté-là. En dehors de ces examens spécifiquement orientés vers l'anatomie et le fonctionnement des organes génitaux, la prise en charge en naprotechnologie est globale, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi à tous les autres facteurs qui vont influencer la fertilité d'un couple. Donc c'est évidemment par exemple la consommation d'alcool, de tabac, d'autres drogues. On va s'intéresser aussi au rythme de vie. Est-ce que l'un ou l'autre des conjoints a un travail avec des horaires décalés, des horaires de nuit? Est-ce que l'un ou l'autre a, pour aller travailler, des trajets qui sont importants? Est-ce que l'un ou l'autre sont séparés pour des raisons de travail ou autres? Est-ce qu'ils se voient seulement le week-end? Est-ce qu'ils passent du temps ensemble? Est-ce qu'ils ont des loisirs communs? Voilà, enfin, tout ce qui concerne, en fait, le temps qu'ils passent ensemble et leur rythme de vie. On s'intéressera aussi à leur sommeil. Est-ce que le sommeil est bon? Est-ce qu'il y a des troubles du sommeil chez l'un ou l'autre? On s'intéressera également à l'alimentation. Est-ce que les repas sont pris correctement? Est-ce qu'il y a des repas sautés? Est-ce que l'alimentation est variée, équilibrée? Est-ce qu'il y a des allergies alimentaires ou des signes d'allergie alimentaire chez l'un ou l'autre? Est-ce qu'il y a des intolérances alimentaires? On s'intéressera également à leur environnement. Alors, c'est quelque chose qui émerge déjà depuis quelques années, mais c'est vrai qu'on va avoir le souci de savoir dans quel lieu de vie ils sont, c'est-à-dire est-ce que c'est un environnement pollué comme des zones industrielles, comme la proximité de trafic routier ou d'aéroport? Est-ce que autour d'eux il y a de la culture intensive? Est-ce que voilà, toutes sortes de choses qui pourraient expliquer par exemple une baisse de performance du spermogramme? On va aussi s'intéresser à ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire voir un petit peu aussi comment dans la maison l'utilisation des produits cosmétiques et des produits pour le ménage, voilà, voir un petit peu faire un tour d'horizon de tout ce qui pourrait être concerné par les perturbateurs endocriniens. Aussi, on s'intéressera à l'histoire familiale, c'est-à-dire il peut y avoir dans l'enfance de l'un ou l'autre ou dans l'histoire familiale des choses qui ont pu blesser la paternité et la maternité. Il peut aussi y avoir dans les antécédents personnels des choses qui relèvent d'une certaine fragilité, des antécédents de dépression, des facteurs psychologiques. On pourra aussi, si l'occasion est donnée, s'intéresser ou aborder la dimension spirituelle. Ce temps de recueil d'informations et d'examen dure environ 2-3 mois et est fonction évidemment des examens qu'on va réaliser. Dans un deuxième temps, on va restaurer la normalité. Cette phase va durer à peu près 1 ou 6 mois. C'est aussi évidemment variable en fonction des choses qui sont à corriger. Donc en fonction des dysfonctionnements, on va mettre en place des changements alimentaires, des changements de rythme de vie, des changements, on va peut-être proposer de l'exercice physique à ceux qui n'en font pas, ou alors réduire l'activité physique chez ceux qui en font trop. On va aussi proposer des traitements qui vont être de deux ordres, soit des traitements médicaux, une supplémentation hormonale, une stimulation de l'ovaire en cas de mauvaise ovulation. Je vous rappelle qu'une bonne ovulation, c'est un follicule de bonne taille, une rupture folliculaire et la constitution d'un corps jaune. On va aussi traiter des dysfonctionnements de l'hypophyse. Par exemple, il y a une hormone qui s'appelle la prolactine qui, si elle est sécrétée de façon excessive, peut bloquer l'ovulation. On va corriger aussi des désordres de la thyroïde, une hyperthyroïdie, une hypothyroïdie. On va pouvoir donner des compléments vitaminiques, un traitement en fer s'il y a une insuffisance en fer. Voilà, tous ces traitements sont donnés de façon classique. Et certains vont être donnés en étant synchronisés avec le cycle. C'est notamment le cas pour le traitement de progestérone qui est donné vraiment en fonction de l'observation du cycle. On va aussi pouvoir avoir recours dans certains cas à la chirurgie pour enlever un polype, pour opérer une endométriose, pour rendre perméable une trompe quand cela est possible. Donc cette phase va être plus ou moins longue en fonction de ce qu'il y a à restaurer chez l'homme ou chez la femme, ou chez les deux. Dans une troisième phase, on va compter les bons cycles, c'est-à-dire qu'une fois que les traitements ont été mis en place, que les opérations ont été faites, cette phase d'attente est une phase d'attente de la grossesse. voilà, tout a été mis en place pour que celle-ci puisse advenir. Je vous rappelle aussi là que les chances de conception au cours d'un cycle sont de 25% chez un couple qui n'a aucun problème de fertilité. Donc c'est pour ça qu'on va se donner cette dernière phase d'attendre la grossesse dure en moyenne 12 à 18 mois et on va se donner vraiment ce temps pour obtenir la grossesse. Donc pendant ces cycles effectifs, c'est-à-dire les cycles où tout est normalisé, je vous donne quelques critères qui permettent de comprendre que tout est en place pour obtenir une grossesse. Donc, on a des taux hormonaux qui sont bons, on a une bonne glaire en qualité, en quantité, il n'y a plus de saignements anormaux, le spermogramme est optimal, la patiente est en forme, l'ovulation se passe bien, on a vérifié ça par un contrôle, par un monitorage échographique, l'utérus ne présente pas d'anomalie qui pourrait gêner l'implantation de l'œuf, c'est-à-dire que voilà, on a enlevé des polypes, on a donné un traitement pour que l'endomètre soit propre à la nidation. La cavité pelvienne est bien nettoyée de lésions d'endométriose, d'adhérence qui auraient pu entraver la fertilité. Il y a, et là c'est vraiment une question de bon sens, des relations sexuelles en période fertile. Ça n'empêche pas d'en avoir en dehors des périodes fertiles, mais évidemment si on souhaite mettre en route une grossesse, il faut en avoir en période fertile. Le stress et les contrariétés sont réduites au maximum. Donc vous voyez que dans cette prise en charge NAPRO, le couple reste responsable et acteur de sa fertilité, parce qu'il connaît ses périodes fertiles qui sont favorables à la conception. Les examens qui sont programmés sont toujours réalisés avec l'accord du couple. On prend le temps d'expliquer et de voir jusqu'où le couple veut aller. Pour réaliser ces examens. On comprend très bien qu'il y ait des couples qui ne souhaitent pas, par exemple, faire une célioscopie parce qu'ils trouvent que cet examen est trop invasif. Et bien, à ce moment-là, on ne fera pas la célioscopie. La fécondation, dans le cadre d'une prise en charge NAPRO, se fait bien dans le corps de la femme à la suite d'une relation sexuelle. Voilà. Et l'intérêt, c'est que une fois que les troubles ont été identifiés, qu'on a restauré qu'on a restauré ce qui ne fonctionnait pas, eh bien, ça peut, si on obtient une grossesse, on pourra aussi obtenir une deuxième grossesse, une troisième grossesse. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ce qui dysfonctionnait, on peut obtenir plusieurs grossesses. Voilà. Ce n'est pas non plus une garantie. C'est-à-dire que si on obtient une grossesse, la deuxième grossesse peut arriver, mais aussi peut être aussi difficile à mettre en route. Voilà, ce n'est pas non plus une garantie. En résumé, en fait, pour résumer mon premier point, on a donc fait un petit rappel des techniques de PMA. Et ensuite, je vous ai expliqué qu'est-ce que la prise en charge NAPRO. Donc, je vais vous donner un petit exemple très concret pour aussi bien que ce soit concrétisé dans un exemple. Par exemple, un couple qui viendrait et chez lequel on constaterait que l'infertilité est due à une obstruction des trompes, c'est-à-dire que la trompe ne fonctionne pas bien, la trompe est bouchée. Eh bien, dans une proposition de prise en charge PMA, on va faire directement une fécondation in vitro, ce qui va permettre d'introduire l'embryon dans l'utérus. Et à ce moment-là, finalement, on n'a pas besoin que la trompe fonctionne. Alors que dans une prise en charge NAPRO, on va demander à un chirurgien de réparer cette trompe, de déboucher cette trompe, afin que la fécondation se passe dans le corps de la femme. Alors, mes deux autres points suivants seront plus brefs. Le deuxième point spécifique à la NAPRO, c'est un suivi en binôme. Donc là, je vous renvoie aussi aux émissions précédentes, puisque les choses ont été bien détaillées par les instructrices Philippine Bienfait et Nathalie Drouneau. Le couple va être pris en charge par une instructrice et un médecin formé en NAPRO. Donc le rôle de l'instructrice est d'apprendre la méthode au couple, de suivre un petit peu comment le couple s'est approprié cette méthode. En général, il voit le couple beaucoup en début de suivi et en général avant les rendez-vous médicaux pour faire le point et valider le tableau. Voilà, les instructrices ont aussi un très beau rôle d'accompagnement et Nathalie Dronov nous en a parlé lors d'une émission précédente. En général, le médecin voit le couple après 2-3 cycles d'observation et ensuite il voit le couple régulièrement tous les 2-3 mois. Voilà. Évidemment, ce délai de consultation peut être réduit si le couple, par exemple, a déjà suivi un parcours de PMA, qu'il a déjà eu un gros bilan, enfin un bilan quasiment complet. Il est intéressant de faire un rendez-vous médical avant une prise en charge par l'instructrice, pour éviter de tomber sur une limite à la prise en charge NAPRO. Je vous rappelle que la NAPRO ne peut pas prendre en charge, par exemple, un couple dont l'homme serait, où il n'y aurait pas du tout de spermatozoïdes chez l'homme, ou alors si les trompes chez la femme sont complètement bouchées et non opérables. Voilà, il y a quelques autres limites, mais c'est important que le médecin puisse voir si effectivement la prise en charge est possible pour ce couple. Ensuite, évidemment, si le couple est avancé en âge, on réduira aussi ce délai de prise en charge et d'observation. Notamment aussi, ça peut être une femme qui a des cycles très irréguliers, qui n'a par exemple ses règles que 2-3 fois par an. On ne va pas attendre 6 mois pour prendre un rendez-vous avec le médecin, évidemment, pour commencer la prise en charge. Voilà, donc vraiment pour ce suivi en binôme qui est vraiment une des spécificités importantes de la MNAPRO, je vous renvoie aux émissions précédentes qui ont été réalisées par les instructrices. Le troisième point est le facteur. Alors oui, ce que je voulais quand même souligner aussi dans la prise en charge de ce binôme médecin-instructrice, c'est que les informations transitent entre le médecin et l'instructrice par l'intermédiaire du couple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien direct entre l'instructrice et le médecin, mais les informations circulent toujours par l'intermédiaire du couple. C'est-à-dire que c'est le couple qui fait le lien entre le médecin et l'instructrice. Le troisième point spécifique à la NAPRO est le facteur temps. C'est une médecine qui prend son temps. Le suivi dure en moyenne 18 mois à 2 ans. Ça peut être évidemment plus court ou plus long en fonction des couples et en fonction des traitements mis en place. Le suivi peut être plus long si une opération est nécessaire. Voilà, évidemment, ce principe de prendre le temps est modulable en fonction de l'âge de la femme et puis des pathologies que l'on prend en charge. Mais on prend aussi le temps, voilà, ce temps est nécessaire pour laisser un déficit hormonal se corriger, pour permettre d'ajuster une dose correcte pour obtenir un bon follicule, pour mettre en place des changements d'habitude alimentaire, etc. Prendre le temps en appro concerne aussi la durée des rendez-vous avec l'instructrice et avec le médecin. Voilà, je voulais juste vous dire qu'en moyenne, la première consultation médicale dure une bonne heure, parfois plus. Les rendez-vous de suivi ensuite sont plus courts, mais en général sont souvent au moins d'une demi-heure. Voilà. Donc on prend vraiment le temps de rencontrer les patients, d'écouter les patients et de voir ensemble comment on avance. Alors c'est vrai que ce temps est souvent vécu douloureusement pour les couples, parce que chaque cycle qui passe lui rappelle son désir d'enfant. Mais avec une relecture et avec le recul, on voit que ce temps est souvent un élément important de cheminement pour le couple, parfois aussi d'ajustement. Nathalie vous l'a rappelé aussi dans l'émission, le désir d'enfant n'est pas toujours très synchrone chez un couple. C'est aussi un temps où le couple va pouvoir... les traitements, grâce au traitement, les résultats s'améliorer, les cycles se normaliser. Voilà. Et lorsque la grossesse, malheureusement, n'est pas advenue dans tout ce temps de suivi, le temps a aussi permis souvent de commencer un travail de deuil de l'enfant biologique et peut-être d'ouvrir quelques pistes pour envisager une autre forme de fécondité. Voilà, évidemment. Donc voilà, j'ai donc abordé ces trois points un peu spécifiques à l'ANAPRO. Je crois que j'ai encore une petite minute pour vous parler du coût du traitement en APRO. Alors, vous savez que la PMA est prise en charge à 100% par la Sécurité sociale. Ça concerne 4 tentatives d'implantation. Et donc la prise en charge est effective avant 43 ans. En aprotechnologie, c'est un petit peu différent. Les examens et les consultations sont prises en charge et remboursées sur la base du tarif de la Sécurité sociale. La mutuelle fait souvent un complément, mais il y a des examens qui ne sont pas remboursés, des traitements qui ne sont pas remboursés. En général, on avertit les couples. Voilà. Puis les consultations chez les spécialistes peuvent aussi avoir un surcoût. En ce qui concerne le suivi des instructrices, c'est entièrement à la charge des patients, sauf qu'il peut y avoir, et Madame Pierson vous en a parlé lors d'une émission précédente, une prise en charge qui est possible sous condition, une aide financière qui est possible sous condition grâce à l'association Fertility Care NAPRO France. Voilà, pour conclure, donc la spécificité de la NAPRO par rapport à la PMA se déroule en trois points. C'est une médecine de restauration de la fertilité permettant la survenue d'une grossesse in vivo, c'est-à-dire que la conception se fait au cours d'une relation sexuelle, contrairement à la PMA qui a recours à l'intervention d'un tiers pour la fécondation et qui, la plupart du temps, propose une conception in vitro. Voilà, la naprotechnologie est une médecine qui prend son temps. Le temps n'est pas un ennemi, mais un ami. La naprotechnologie permet aussi un suivi en binôme qui propose au couple d'avoir plusieurs espaces d'écoute et de parole. Voilà, je vous remercie.
Docteur Bénédicte Delors, nous avons reçu un message. Alors, c'est plus un témoignage plutôt qu'une question. Donc, voici ce message. Bonjour, merci pour votre émission. Je regrette de ne pas avoir entendu parler de la naprotechnologie avant. J'ai eu une insémination artificielle il y a presque 20 ans. J'ai refusé d'aller plus loin. Entre parenthèses, examen douloureux, froideur du personnel soignant. Mon mari attendait dans la pièce à côté pendant l'insémination, etc. J'ai 47 ans, c'est trop tard pour moi, mais je suis sûre que votre émission aidera de nombreuses personnes. Bonne continuation. Et c'est signé une auditrice qui souhaite rester anonyme.
Merci pour ce témoignage. Alors, il ne faut pas qu'elle ait de regrets, cette dame, parce que il y a 20 ans, la naprotechnologie n'existait qu'aux États-Unis. On n'en avait pas trop entendu parler en France. Je crois que c'est vrai que les choses évoluent et que c'est bien de pouvoir proposer maintenant au couple une véritable alternative. Voilà.
Alors, cette auditrice fait référence à des examens douloureux. Vous avez parlé de certains examens. Est-ce que, justement, il peut y avoir, on peut se préparer pour les femmes qui subiront certains examens à une douleur physique? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un signe peut-être d'un autre problème?
Alors, c'est vrai qu'il y a certains examens qui peuvent être douloureux, mais vous savez que la douleur est vraiment fonction de chacun. Donc, par exemple, pour l'examen dont j'ai parlé, qui s'appelle l'hystérosalpingographie, il y a des femmes qui vraiment vivent cet examen de façon très, très sereine. Enfin, il n'y a pas de souci particulier. Et d'autres chez lesquelles c'est plus douloureux. Alors, c'est vrai que la douleur peut être aussi présente si par exemple il y a une trompe qui est pas très perméable, du coup le produit fait plus et plus le passage du produit est plus douloureux. Mais voilà, ça, la douleur, c'est vraiment un facteur personnel. Alors c'est difficile. Il y a des examens qui sont plus ou moins agréables. En général, on prévient les patientes, mais c'est vraiment très, comment dire, on ne peut pas dire à l'avance à une femme, vous allez vraiment avoir mal, ça, parce que ce n'est pas forcément le cas.
Et puis dans la vie quotidienne, il y a d'autres examens qui peuvent être douloureux, comme par exemple aller chez le dentiste. On peut
Voilà, c'est ça.
rencontrer quelquefois la
Après,
douleur physique à ce moment-là.
oui, je pense que ce qui ajoute aussi peut-être dans ces examens, c'est que c'est souvent voilà, qui touche à l'intime, aux organes génitaux. Donc il y a aussi ce facteur peut-être qui entre en ligne de compte quand on passe des examens comme ça, c'est pas forcément très. Voilà, c'est jamais, on n'y va jamais de gaieté de cœur, on va dire ça comme ça.
D'où l'importance de l'accompagnement de l'instructrice qui va peut-être préparer le
Oui, c'est
couple
ça,
à ce qu'il attend.
effectivement. Oui, qui prépare, on en parle évidemment avant, on explique bien le déroulé. Et puis effectivement, quand la personne revient avec les examens, on a toujours un petit mot pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi dans le déroulé d'un examen, l'intervention du médecin qui le réalise. Hein. Il y a aussi parfois des médecins, et on peut le dire, hein, qui sont pas forcément délicats ou voilà qui sont pas voilà et ça, c'est un facteur humain aussi qui joue.
Mais ça finalement, c'est valable dans n'importe quel
Aussi, oui.
domaine médical.
C'est ça.
Voilà. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter une information par rapport à notre thème d'aujourd'hui?
Non, je crois pas. C'était assez difficile dans un temps bref de vraiment parler de cette spécificité de la napro. Je crois que, en fait, ce que j'aimerais peut-être dire pour résumer, c'est que, en fait, la naprotechnologie et la PMA poursuivent le même but, c'est-à-dire. On cherche à obtenir une grossesse pour un couple qui est en espérance d'enfant, mais les moyens pour y parvenir ne sont pas les mêmes. Et donc voilà, mon souhait serait que chaque couple, en fonction de ses critères qui lui sont propres, puisse avoir ce choix de la prise en charge qui lui convienne.
Eh bien, merci beaucoup, docteur Bénédicte Delors, pour cette émission.
Merci à vous.
Et à bientôt. Au revoir.
Au revoir, madame. Au revoir à tous.